tief. Die Leidenschaft. Aufgeschlossen. Kunst. Kunst. Brüssel und Kunst. Ohne Titel.
Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Ohne Titel, l'émission de Radio Panique qui fait le tour de la scène artistique indépendante à Bruxelles. Donc on fait le tour des expos, des ateliers maintenant, on va commencer à faire ça aussi. On va découvrir des initiatives et des artistes qui dans notre ville ont une place et favorisent ce grand élan et ce qui fait qu'on aime vivre à Bruxelles habituellement, en tout cas, qu'à chaque coin de rue, il y a de la création et de la créativité. Et donc, on essaye d'aller à la découverte de toutes ces personnes qui ont un travail artistique et créatif qui nous semble intéressant. Et alors, en général, dans nos choix, en tout cas, on porte une attention, pas exclusivement, mais on porte quand même une attention particulière à des artistes qui font partie de groupes qui, quelles que soient les raisons, sont en tout cas sous-représentés dans le monde de l'art en général, certainement sur le marché de l'art ou les grandes institutions, même si les choses commencent à changer. Ça, je dois quand même, il faut quand même le dire et l'observer et s'en réjouir. Les choses changent et il y a de plus en plus d'institutions et de plus en plus de galeries et de centres d'art et autres, ou de musées même, qui commencent à se rendre compte que l'art est proposé par des artistes qui viennent d'horizons très différents et qui ont des réalités et une vision du monde fort variée et que tous ces regards différents rendent intéressant et beaucoup plus excitant, si vous voulez mon avis, d'aller découvrir des œuvres, puisqu'on sort à chaque fois, chaque artiste amenant des choses assez inédites au final, puisque le regard est porté depuis un autre point de vue, ce qui est très très intéressant. Cette question du regard, elle est importante en art, et en plus cette question du regard en ce moment dans notre société, où par exemple, si on doit parler des artistes sous-représentés que sont les femmes, et on reproche souvent dans les milieux féministes, il y a tout le concept autour du male gaze, c'est-à-dire le regard de l'homme, le regard masculin, qui en général est un regard sur la femme, sur le corps des femmes, sur le rôle de la femme, et c'est ainsi qu'en art ça se traduit par la muse, par exemple, ce personnage mythique mais qui n'a rien à dire, des sculptures ou des peintures qui représentent souvent des nus, on le voit aussi dans la publicité, dans d'autres usages qui sont faits du corps des femmes. Et à ce male gaze, les femmes répondent par le female gaze, mais qui n'est pas de regarder l'homme comme un objet et de l'essentialiser, mais plutôt d'amener, voici moi en tant que femme, mon regard sur le monde. Et que forcément ce regard sur le monde est différent que le regard d'un homme sur le monde. Et que ce regard-là va amener d'autres sujets, d'autres façons de parler de sujets dont on parle déjà, etc. Donc c'est fascinant. Moi, je suis très contente de vivre à l'époque dans laquelle on est. C'est peut-être étrange de dire ça, on est en plein confinement saison 2. Mais je trouve qu'en dehors de cette crise sanitaire auquel, de toute façon, l'être humain n'échappe jamais, pourquoi est-ce que nous, on y aurait échappé? C'est une question à se poser. Il y a toujours eu ce genre de crise, donc patientons et faisons le dos rond en attendant. Mais à côté de ça, je parle plutôt de la société dans laquelle nous vivons. Et là aussi, on va dire, mais non, mais Yamina, mais cette société avec le complotisme qui monte et on ne sait plus où donner de la tête, certes. Mais c'est quand même un moment où beaucoup de monde parle et où on entend de nombreuses voix. Et elles se font entendre, elles sont de plus en plus vocales et on les entend. Et puis quand on fait de la radio, on est surtout une radio comme Radio Panique qui a pour vocation d'ouvrir ses micros à un maximum de gens possible, et bien se rendre compte que ce rêve que Panique avait mis en œuvre dans les années 80 au moment de sa naissance, ben on y est tout doucement, même si c'est pas sans friction, même au sein de Panique, hein, d'ailleurs, je ne vais pas vous le cacher, il peut y avoir des frictions dans ces endroits-là, mais on remet tout en question, en fait, on ne veut plus, et je dis on, les gens comme moi, puisque moi aussi je fais partie d'un groupe qui est sous-représenté, et du coup, on ne veut plus entendre qu'un son de cloche, on veut aussi que le nôtre soit entendu. Alors certains nous diront, oui, mais on est à une époque où on ne peut plus rien dire. ce qui n'est pas tout à fait exact. On peut tout dire, tout le monde, mais la différence, c'est que tout le monde peut parler, pas une seule personne, et que quand on parle, on a des réponses. Voilà. Enfin bon, ça c'était une petite réflexion introductive, et puis l'émission d'aujourd'hui, je vais quand même vous la présenter et vous laisser l'écouter. Alors, comme d'habitude, c'est le portrait d'un artiste qui nous parle de son travail. Mais par contre, là où c'est différent, c'est que cette fois-ci, on va vous passer un documentaire radio que nous n'avons pas réalisé, nous. Parce que nous, en général, on fait des portraits en promenade. Et c'est un documentaire radio qui nous offre à découvrir Joseph Francis Oumenié, qui est un artiste camerounais, qui va dans ce documentaire nous parler de la place de l'art contemporain dans la société, de questions d'héritage. Il va nous parler de ses œuvres, de son histoire. Il va nous parler de son premier professeur d'art, qui n'était autre que sa grand-mère. Voilà, et c'est riche en sons, en ambiance. On a trouvé que c'était une chouette façon de présenter cet artiste qui a une belle reconnaissance, pour le coup, Joseph Francis Oumenié. Il s'agit d'un documentaire radio qui a été réalisé par Didier Chiliou-Pounzi et qui s'appelle « Le Djala de Soumenié ». Donc, je vous laisse écouter ça, et puis on se retrouve pour une autre émission avec Sofiane, mon comparse, et on va essayer de découvrir d'autres artistes bruxellois. Bonne écoute.
Le Djala de Soumenié, un documentaire radiophonique de Didier Tulopoussi.
Il faut se concentrer pour atteindre la fréquence du coq.
Disons, si j'ai pu maîtriser ce son, c'est parce que ces sons-là me sont familiers. J'ai pu les répéter plusieurs fois pour arriver à produire le son exact. Même le coq, ça, c'est qu'une phase. Parce qu'en fait, c'est... Bon, il y en a plusieurs. Mais un coq qui apprend à s'y faire, c'est...
Vous avez des liens particuliers avec les oiseaux, monsieur Soumenié?
Oui, mais bon, je les écoute. Autour de moi, il y en a les oiseaux. C'est pas moi, Angousso, j'en ai beaucoup autour de moi. Ça, le matin, je suis très attentif parce que je veux guetter quelques nouveaux chants.
Le méditoire du Djala. Le méditoire, c'est l'atelier de l'artiste Joseph Francis Oumenié. Il se situe dans un quartier du centre-ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Nous sommes en bordure de route, face au bar de Maestro. Le méditoire est mitoyen à un atelier de menuiserie métallique. Un menuisier a installé sa machine sur le trottoir, juste en face de ce que le sculpteur appelle son trou. C'est l'endroit le plus bruyant du monde. Le méditoire se résume en une pièce grande comme une chambre à coucher. La pénombre règne. Un carré de tôle ondulée laisse pénétrer un peu de lumière. L'atelier est divisé en deux par un sentier qui sert de passage au voisin direct. Ce dernier sépare deux montagnes d'objets de toutes sortes, tous de récupération. Des pneus abîmés, des vieux bidons, une chaise éclopée, un cadre de vélo, des tuyaux de plomberie, canettes, cuillères, fourchettes, des clés, et puis des moteurs électriques dans lesquels l'artiste récupère le précieux fil de cuivre.
Avec l'artiste a toujours une pléiade de choses. Lorsque on se trouve dans ce que j'appelle le méditoire, c'est pas un atelier, le vouloir est tellement fort que lorsqu'on veut éliminer le bruit, on le fait comme on fait avec le temps. Si on veut accepter le bruit, on l'intègre seulement. Et puis, répugner le bruit, je dis oui, bon, peut-être, parce que ça t'empêche de travailler, de suivre une direction. Mais ça, c'est pour les gens qui sont à l'étape primaire de la méditation ou bien de la création. Parce que la création elle-même, c'est l'intelligence en mouvement, c'est mettre ton cerveau en fonction, dans le sens de produire des idées, de produire des formes. Et quand tu refoules une pensée, ça veut dire que tu ne veux pas du bruit autour de cette idée-là. Cette idée-là va te faire trop du vacarme. Les choses qui veulent se faire, les choses qui ne veulent pas se faire, ta conscience qui n'est pas droite avec tout ça, c'est du bruit. Ça, le bruit du silence, c'est dans le cerveau.
De temps en temps, un masque accroché sur un mur me salue et me fait oublier où je suis. Tiens, celui-là attire mon attention. Je m'approche. Des objets en plastique sont assemblés et représentent un visage extra-humain. Une figurine mi-homme, mi-éléphant. On dirait que ce dernier est équipé d'un masque à gaz. Un masque qui le protège des caprices de l'espèce humaine.
Une partie importante de ma formation artistique se trouve dans mon passé, dans mon enfance. Parce que très tôt dans l'enfance, j'étais toujours très marqué par des histoires qui restaient en suspens et qui permettaient de plonger dans l'imagination. Et surtout grand-mère qui avait réussi, je sais comment, à créer en moi cet engouement enfin, sans le vouloir. Bon, c'est même plus tard que je me rends compte. Parce qu'en me racontant une histoire, par exemple, telle que les habitants de l'eau ont brûlé les habitants du feu, ben, imaginez cela dans l'esprit d'un tout petit enfant qui a peur d'une djunjou, de toute forme qui est massive et qui ne parvient pas à saisir la forme. Bon, cette histoire fait en sorte que moi, tout ce qui est fictif, ça crée une espèce d'intérêt que je n'ose pas imaginer. Qu'est-ce qui pourrait se passer si c'était plutôt comme ça? C'est comme ça, comme ça. Voilà. Mais quant à l'expression plastique, mon premier professeur, vas-y pour le dire comme ça, mon premier professeur d'art, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était une femme de prince. Et parce qu'elle était une femme de prince, elle avait sur elle des tatouages, des gravures sur la peau, sur la joue et même au dos. Bien, tout petit, j'étais toujours intéressé de voir grand-mère toute nue parce que ça me permettait d'aller sur les cuisses, regarder de très près les détails des tatouages qu'elle avait sur la peau, parfois au dos. Et bon, quand elle me mettait au dos, je passais plutôt le temps à regarder, à frotter un peu le dessin pour voir si ça pouvait sortir, tout ça. Bon, c'est comme ça que j'ai grandi dans un esprit artistique sans me rendre compte, parce que c'est plus tard que toutes ces choses me reviennent à l'esprit et que je finis par comprendre que, bon, c'était une espèce de formation qui ne dit pas son nom. Puis, malade que j'étais, elle pouvait me traîner chez les guérisseurs par-ci, j'arrive, j'étais toujours intrigué par des choses que les guérisseurs utilisaient. Ça pouvait être des masques, ça pouvait être des calebasses gravées, ça pouvait être toute espèce de truc qui se rapportait à l'art, l'art du toucher, ce qu'on a touché et travaillé manuellement. J'étais toujours intrigué par ça. Et ça, c'est une histoire qui m'a complètement marqué. Et d'ailleurs, je meuble toujours mes peintures, mes sculptures, avec des petits détails que j'ai captés depuis l'enfance sur mon entourage immédiat. C'est pourquoi, quand on parle d'autodidacte, monsieur Soumaya, vous êtes autodidacte, je dis que si c'est une façon de pénaliser ma formation, je dis que ce n'est pas approprié, parce que dans toute école, l'essentiel, c'est d'être bon élève. Être bon élève veut dire être capable de trouver le côté universel de ce que tu as, et puis savoir le proposer à l'ensemble de la société. C'est l'effort que fait tout étudiant, tout élève, conscient de l'école qu'il a faite, et puis de proposer le meilleur de soi. Donc, Soumaya est autodidacte, comme on parle de l'autre côté, mais en réalité, il a une formation traditionnelle. L'école libre, la grande école, parce qu'on ne va pas appeler ça l'école traditionnelle, c'est trop mettre ça dans la boîte. Disons, c'est l'école libre. Vous regardez, vous réfléchissez, vous faites vos leçons, vous faites vos résumés, vous tirez vos conclusions. Voilà, c'est une école. Elle n'est pas contraignante. Elle ne vous fixe aucune règle. C'est vous qui établissez vos propres règles et votre manière d'aborder la question. Et ça, je crois que c'est la meilleure école de création.
Le train de vie circule sur l'argent. La tapisserie mesure 1 mètre de long sur 70 cm de large. Le tableau représente une locomotive. On penserait à une usine sur roues. De fines roues qui laissent transparaître la fragilité de l'engin. Des individus sont en action sur la machine. Ils ont l'air de souffrir à la tâche. Au centre de la toile, la tête d'un homme domine. Il a de grosses lèvres et des dents qui lui attribuent un sourire mesquin. Son regard donne des ordres. Son képi me fait dire qu'il s'agit du cheminot. C'est peut-être le contremaître des travaux ou le responsable de tout ce mécanisme. À l'arrière du train, une main se rapproche pour ramasser une pièce de 1 franc. Tandis qu'à l'avant, la cheminée crache des grosses buées d'une fumée épaisse et noire.
Ça ne fait pas encore longtemps que mon épouse a su qu'on pouvait gagner de l'argent dans l'art. Parce que chaque fois que j'avais un 10 000 ou un 15 000, je disais ça, c'est pour peut-être tout le mois, et arrange-toi qu'on ait à bouffer un peu. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Jusqu'au jour où un soir, je l'ai apporté 500 000 francs comme ça. Elle compte. Je dis, mais tu as volé. Je dis, non, j'ai vendu une collection de peintures. Elle dit, donc ton truc-là peut donner l'argent. Je dis, oh, peut-être, c'est un début. Je n'en avais pas eu comme ça avant. Je n'avais jamais voulu l'animer de faux espoirs. Tu sais, dans ce milieu-là, on est sûr de rien. Le jour où je décide que je veux faire de l'art, c'est quand j'ai exposé pour la première fois au Centre culturel américain de Yaoundé. J'ai touché pour la première fois 350 000 francs. Ça a fait le déclic. Je dis, ben tiens, il y a l'argent dans ce truc. Si j'allais dans la maison, j'ai commencé à réfléchir. Comment faire pour être un vrai artiste? J'ai commencé à regarder les livres, regarder, écouter. On parle de l'art, je m'en vais. J'avais rien à dire. Mais aujourd'hui, j'ai à dire. J'ai mes conclusions, je peux parler, j'ai un discours. Bon, dans le concept matériel, je dis que je récupère ou non, l'objet pour moi fonctionne comme un élément, j'appelle ça comme un ustensile de la création. C'est un moyen d'accéder, de s'exprimer avant d'être récupération. Le récupérer vient simplement que la poubelle offre une variété plus étendue et plus gratuite de mes choix. C'est plus un problème du matériel soumis depuis très longtemps parce que la pénurie n'existera pas. Il n'y aura pas de pénurie de matériel. C'est le concept, c'est comme ça. Je n'aurai pas besoin de frapper la porte d'un magasin en Occident pour dire que je viens chercher exclusivement un matériel. S'il n'y a pas, je ne travaille pas, je ne dirai jamais ça. Ça me fait plaisir d'aller à la voirie, de prendre des conneries, de venir lui donner un regard nègre, la vision nègre de l'art. Je lui propose ma perception sur la chose et il intègre et il achète. Conséquence, je lui vends l'invendable. Et c'est ça l'économie. C'est vendre l'invendable, l'économie. Vendre les peaux de banane. Comme je m'amuse souvent à dire, moi, je vends les peaux de banane. Mais monsieur, comment vous pouvez vendre les peaux de banane? Je dis, vous ne savez pas comment on vend les peaux de banane. Ça dit quelque chose qui est voué à rien. Bon, vous le transformez en une denrée vendable. C'est tout ce que moi je fais. C'est tout. Même ma femme s'y est prise au piège. Elle me dit que les gens disent que tu n'es pas normal. Je dis, mais oui, toi, tu dis que je suis comment? Elle dit, mais pour moi, tu es normal. Je dis, mais ça me suffit. Je paie l'école à mes enfants, je nourris ma famille, je m'occupe de leur santé. Moi-même, je prends soin de moi, je n'attaque personne. Je fais juste mon petit boulot, même si c'est dans la voirie. Les gens sont libres de dire ce qu'ils disent. C'est à toi de voir. Depuis ce temps, quand elle même trouve des trucs qui vont me servir, elle n'hésite pas. Elle amène ça à la maison. Elle apporte ça à la maison. Donc si je m'en vais dans une poubelle, je prends des volumes qui subissent des transformations en passant par le méditoire sous l'œil du sculpteur du Jala. Eh bien, s'il en sort une œuvre, un travail qui vous plaise, vous n'allez pas dire que cette formule
d'archimiste des temps contemporains ne vous a pas transformé le vil plastique en or. Non, il a fait, puisque vous achetez. C'est si simple que ça. Je m'amuse à transformer le vil plastique en objet d'art, en œuvre d'art. Peut-être il faut un fil de seconde plus petit, hein, plus petit encore. Bon. Vide et vide plus ce bouchon, qu'est-ce que ça me donne? Il y a un vide par prolongement. Je vois, qu'est-ce que ça peut me donner? Bon, apparemment rien du tout. Mais si je mettais ça ici, ça me donnerait quoi? Encore rien du tout. Je ne signe pas mes travaux parce que mes travaux se signent d'elles-mêmes sur les œuvres par la manière dont les choses sont faites. Tiens, regarde ça. Dedans. Alors, la signature veut dire quoi? La signature est un aveu digne d'un artiste conscient de sa quête. La signature est un soupçon et ce soupçon est lié à la quête du chef-d'œuvre. Enfin, l'artiste veut en quelque sorte dire « Je soupçonne cette œuvre d'être un chef-d'œuvre. » Je soupçonne cette œuvre d'être un chef-d'œuvre. Voilà ce que ça veut dire, une signature. La plupart des artistes qui signent peut-être sans savoir ce que veut dire une signature. Peut-être c'est pour s'approprier leur espace de pensée et trucs. Mais or, si moi, c'est une question permanente, une quête, je trouve nul de signer. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui dois décider qu'une œuvre soit une œuvre. C'est d'ailleurs pourquoi la signature dit bien « je soupçonne ». Voilà pourquoi je les devance tout simplement en refusant de signer mes œuvres. Parce que ceux qui ont le regard de dire « ah, mais c'est magnifique! Qui a fait ça? Ça coûte combien ?» C'est terminé. La compétition a démarré. Cette œuvre peut aller défier les autres œuvres. C'est plus mon problème. Léonard de Vinci, quand il a fait la Joconde reste devenue ce qu'elle va devenir. Léonard de Vinci n'en sait pas grand-chose. Tu lui demandes, mais quelle est la plus belle de tes œuvres? Il dit, ben bon, pour l'instant, je cherche encore. Si on lui disait que la Joconde serait le chef-d'œuvre qu'il a cherché de toute sa vie, peut-être il n'y croirait pas lui-même. Parce qu'au départ, ce n'est qu'un soupçon. Hein. Ce n'est qu'un soupçon. Peut-être d'autres ne le voient pas comme ça. S'ils voient le contraire, qui cesse de signer? On va voir si on va parler d'eux. C'est un défi. C'est un défi. Ne pas signer son œuvre est un défi. Pour dire, écoutez, si la signature, par le moyen de la force de présence, se révèle, c'est la meilleure signature. C'est une signature qu'on réclame. Qui a fait ça? Le nom est lié à l'œuvre. Même que ce n'est pas écrit, vous n'oubliez plus. C'est tout. Oui, voilà la vérité sur la signature. Enfin, une vérité qui émane de l'école libre, parce que la signature de Dieu se trouve dans toutes les choses. Elle ne vient pas devant la porte de quelqu'un qu'on est chaque matin. Est-ce que tu ne sais pas que c'est moi qui fais lever le soleil? Mais le soleil est au rendez-vous. Hein? Essayez de copier. Pas trop revendiquer tout, c'est moi, ok, c'est toi, mais alors, c'est ce qu'ont fait les Dogons, c'est ce qu'ont fait les Yoruba, c'est ce qu'ont fait les Égyptiens. Tu peux pas aller voir une sculpture égyptienne, tu vois le nom de l'artiste, que c'est quoi? Il fait quoi avec ça? Mais va voir le petit mystère que ça crée dans les grands espaces anthropologiques.
Si la terre pouvait parler, c'est une tapisserie multicolore en fil de laine. Elle mesure environ 1,40 m sur 60 cm de haut. La scène centrale représente une carte du monde horizontalement fissurée en deux. Un homme est couché sur le sol. Il a les fesses à l'air, les bras écartés. Ses paumes de main reposent par terre et son oreille est tendue contre la croûte terrestre. Là en dessous, des tas de fourmis sont en plein ouvrage. Elles traînent des provisions d'un bout à l'autre du tableau, se frayant un passage entre les racines jusqu'à un cadavre posé en surface. Ce dernier est lui-même protégé par une statue de pierre, un sarcophage qui a l'aspect d'un visage, un visage très fin et des yeux clos. Sa bouche est ouverte et laisse échapper une vapeur étrange, une vapeur qui rampe sur le sol et s'écoule à son tour dans les entrailles de la terre.
Tu vois les fourmis qui entrent par l'intérieur de cette sculpture-là, tu vois l'ouverture au fond, et passent dans la crevasse. Pendant qu'ils font ce travail, tu as cet individu qui voit les fourmis travailler et médite. Si la terre pouvait parler. Ça, c'est une photo de 1976. Cette toile a été exposée au Centre culturel américain lors de ma toute première exposition, qui était intitulée, en fait, « Le premier pas ». Je trouve que, dès le début, j'avais toujours cette quête, comme l'a toute l'humanité. Où est la vérité ? Si la Terre pouvait parler, se rapporter justement à ce questionnement intérieur de tout humain. Où est la vérité ? Est-ce que les fourmis qui sont organisées et travaillent en paix, est-ce que les humains ne pouvaient pas se référer à ces bestioles sans intelligence qui ne travaillent que de sensations ? Pourquoi les humains intelligents vont-ils passer des temps à se battre ? Si la Terre pouvait parler, si la Terre pouvait inviter l'homme à la poésie de la vie, dire « Regardez !» Et recomprenez-moi, remettez-vous en question, vous. Que faites-vous de votre intelligence si elle ne peut pas vous aider à être heureux? Ceux qui sont sans intelligence sont en paix, ceux qui sont avec intelligence sont en guerre. Qu'est-ce que c'est une intelligence de guerre? Voilà, si la Terre pouvait parler, se rapporte à ce questionnement-là. Bon, je vais d'abord comme ça prendre cette bouteille-là. La voici. Voilà. Je vais l'appeler tout à l'heure œil fictif. J'ai pratiqué d'abord l'art d'une manière inconsciente, ensuite conscient et puis professionnel. Aussi, je vais apporter un petit quelque chose puisque je me suis découvert artiste. Tu ne vas pas m'en vouloir que je dise dans l'espace artistique, tu as des commerçants qui s'en vont là. D'autres sont des aventuriers, veulent un grand nom dans l'art. Mais même si ce grand nom doit être dans le fouillis des autres grands noms, il veut quand même être là. Eh bien, sans différence, sans raison apparente, si ce n'est que l'argent. Bon, l'argent, je pouvais l'obtenir autrement, je pouvais faire l'argent autrement. Je pouvais être commerçant comme tout bon Bamléké, mais moi, j'ai dit non. Parce qu'en Bamenjou, le mot « ja » signifie le sur-soi, le subconscient, le plus profond de soi, là où l'être puise les forces du désespoir pour se manifester à un niveau qu'en temps normal, il ne ferait pas. Ça, on appelle ça le « ja ». Il faut chercher dans l'espace de l'extraordinaire pour l'extériorer. Ça, c'est le Ja. Et puis là, c'est dit les peuples. Ja, qui veut dire dépassement de soi pour l'élévation des nations. Voilà le mot. Dépassement de soi pour l'élévation des nations. En Bamenjou. Donc, phonétiquement, on dit Jala. Ou bien pour briser le silence interne des humains, les amener à s'élever, à se dimensionner. C'est ça le jala. Mais or, le jala, comme c'est un mot qui exprime
un espace de comportement, un espace d'être. Donc le jala, on peut le trouver dans toutes les pratiques. Dans tout espace d'activité humaine, on peut trouver le jala. On dirait, en Bamenjou, il a atteint la phase du ja. L'élève, l'étudiant de l'école traditionnelle des arts que je suis, peut être fier que les masques africaines, dans leur manière d'être, dans la façon dont ils sont faits, ont pu créer une pensée originale tirée des habitudes des anciens que j'appelle le rituel ancestral. Bon, le rituel ancestral, il ne s'agit pas d'une dundum ou bien du funkan ou bien de ceci. Non, ça c'est le côté religieux. Ça c'est la religion nègre, l'initiation. Non, ce n'est pas de ce côté-là. Je parle d'une certaine habitude, d'une sensation personnelle, d'une volonté réelle de changer l'objet par le regard seulement. Voilà, c'est cet espace de pensée-là qui m'a guidé vers l'observation profonde des masques. Et la conclusion est très simple, j'en ai tiré des leçons. Par exemple, sur le regard des masques, j'ai dit il y a le regard de l'absence et puis il y a le regard de présence. Avec le jala et le vide absolu, je parviens à créer cette impression de présence qui réellement traduise l'illusion d'une vie réelle. D'ailleurs, les gens disent toujours, mais monsieur, vos sculptures ont l'air comme si c'était vivant. Il y a un petit enfant qui s'était exclamé là, à l'angle du méditoire, là, un peu dehors. L'enfant s'exclame, maman, il me regarde, maman, il me regarde. Et puis, la maman dit, non, ne le regarde pas, il ne va pas te regarder. Donc, quand je dis que l'école des masques m'a enseigné beaucoup, c'est que j'ai appris à connaître comment ils ont fait, un peu pourquoi ils ont fait ça comme ça, et quelles étaient leurs limites, et comment je pouvais continuer. Et c'est pourquoi je me bats maintenant pour atteindre ce que j'appelle le point de connexion, qui en fait va me libérer un peu de l'emprise ancestrale. Quand je dis emprise, ça veut dire que je me plais tellement d'observer les ancêtres que si je ne fais pas le point de connexion, je risque de ne jamais les quitter. Je n'oublie pas que je suis un artiste contemporain, de toute façon, mais j'ai voulu donner l'assise à ma recherche, à ma quête. On l'a qualifié de l'art traditionnel, comme ça, vague, comme si c'était un art balisé qui portait une certaine empreinte de non-savoir. Bon, je veux dire non, l'art traditionnel, ce n'est pas un espace de non-savoir, c'est un espace suspendu. Un espace suspendu dont on peut continuer, mais il a manqué simplement ceux qui peuvent raisonner dans le sens de continuation, dans le sens de comprendre pour mieux continuer. Et les élèves, les jeunes d'aujourd'hui en ont besoin. Il faut comprendre pour avancer.
Les empreintes de l'égaré. La statue fait presque 3 mètres de haut. Un grand fût bleu taillé donne l'impression d'une tête de lion qui rugit. Sa gueule est ouverte et on voit ses grandes dents pointues qui brillent. Un assemblage de petites pièces métalliques constitue sa barbichette. Deux poilons de couleur rouge suspendus à son front me font penser à des gyrophares qui amplifient sa présence. Ses grands yeux cernés de tiges métalliques donne l'impression qu'il regarde à l'horizon, telle une sentinelle. Une demi-jante, posée au-dessus de sa tête, forme le socle de sa couronne. Une espèce de tour qui s'élève dans les airs. La partie inférieure de ce totem repose sur des jambes humanoïdes.
J'ai choisi de faire les empreintes de l'égaré parce que dans l'histoire de l'humanité, il se révèle que les hommes, dans leur quête, ont fait des jalons, ils ont posé des balises, les balises qui sont en fait des repères. Dans l'histoire, on peut parler par exemple de la Première Guerre mondiale. On dit Première Guerre mondiale, tout le monde sait, on se souvient de 1914. Donc dans l'histoire, c'est une balise, c'est un totem. C'est-à-dire, attention, à partir de ce moment, l'histoire a pris un autre cours. Exactement comme une balise, lorsque vous le voyez entre Bameka et Bamenjou, par exemple, les Bameka doivent lire cette balise est l'interpréter. C'est une balise qui peut être une balise d'avertissement, qui peut être une balise d'accueil, qui peut être une balise spirituelle ou bien de délimitation. C'est quoi, j'ai fait les empreintes de l'égaré. Pour dire que l'égaré, à un petit niveau, c'est cet homme-là qui dit « Attention, je suis là, faites attention à moi. » Ou bien « Aidez-moi à me retrouver. Je suis perdu. » Ça, c'est également l'histoire de l'humanité dans sa globalité. Attention, nous sommes sur la Terre, nous ne savons pas encore qui nous sommes, on ne sait pas. Création ou évolution, je suis où? Je fais quoi ici? L'égaré est là, avec une balise. Je vais où? Mais en attendant, me voici, ici. C'est pourquoi tu peux voir la tour Eiffel. C'est une balise. La nouvelle liberté à Douala. Est-ce que je suis là? Oui, je suis là, puisque je suis à Douala. Moi, nouvelle liberté, je suis là. Et c'est des totems. C'est des empreintes de l'égaré, c'est des traces. De l'homme qui se questionne, l'homme qui se cherche, l'homme qui veut la vérité, incapable de la porter, mais il la cherche quand même.
Tantôt, on parlait de la définition de l'art, mais je rapproche la réponse que quelqu'un m'a donnée avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que l'art doit dire quelque chose.
Oui, si ça ne dit rien, c'est nul. C'est pourquoi d'ailleurs même je reproche les collègues qui s'amusent à mettre sans titre. Chacun interprète comme il sent. Chacun voit ce qu'il voit. Je dis, mais bon, à quoi ça sert de dire sans titre? Donne un titre, sois courageux, il faut être responsable de ce que tu as fait. C'est aussi simple que ça. Quand je suis avec les enfants, je ne vous encourage pas à faire de sans-titres, jamais de sans-titres. Faites jamais ça. C'est une démission de l'intelligence. Ça veut dire que tu es dans un univers dont tu es étranger, tu ne cherches même pas à savoir où tu es. Donc tu es perdu. Nous, on veut les baliseurs, les gens qui peuvent passer et laisser une trace. Tu amènes des gens. Tu ne peux pas m'amener dans ton univers que tu ne maîtrises pas. Tu veux m'égarer là-bas. Qu'est-ce que d'où je viens, qui je suis?
La nouvelle liberté. Ce bonhomme de 6 tonnes et demi a fait irruption en 1996 après 36 mois de gestation. Il règne sur le rond-point d'Aedo, dans la ville de Douala. Il fait 12 mètres de haut, 5 mètres d'envergure et est entièrement constitué de matériaux de récupération. Perceptible à 800 mètres à la ronde, il est debout et fait face au fleuve Vouri. Sa main gauche, celle qui généralement représente le côté du faible, exécute prudemment un geste fort en tenant le globe terrestre au-dessus de sa tête. Sa main droite est repliée sur sa hanche à la façon d'un mannequin qui pose. Les miroirs qui constituent son visage me renvoient un reflet et semblent me demander « Et toi, es-tu libre ?»
Didier Chop, c'est le directeur artistique de Douala. Lui et son épouse, ils sont venus donc me rencontrer ici. Ils m'ont posé la question, mais monsieur, nous avons entendu parler de vous et on a tenu à vous voir de très près ce que vous faites. Et quand est-ce que nous avons vu, celui qui nous a raconté n'a pas dit la moitié de la chose. Vous êtes celui qu'il nous faut pour notre expérience artistique. Est-ce que vous aimeriez faire un monument avec nous? Je dis un monument, ils me disent oui. Je dis un monument, ils me disent oui. Je dis, ben, vous savez ce que vous voulez faire? Ils me disent, mais non, tu fais tes propositions. Je dis, ok. Voilà donc, c'était le départ du projet de Bindo. On est descendu à Douala. J'ai dit, je vais d'abord voir le site. On est parti montrer deux sites, deux endroits, le rond-point d'Edo et le rond-point 4e. J'ai dit, je préfère le rond-point d'Edo. Et on a donc fait les photos, de différents angles de vue, quoi. Je suis remonté sur Yaoundé avec tout ça. Commencer à regarder, réfléchir. Et puis, ils sont revenus, me dit bon, on descend à Douala pour relancer le projet. Mais avant de relancer le projet, il nous faut une exposition d'envergure. Nous allons présenter l'artiste en public pour motiver les sponsors. C'est donc à cette occasion que, pour la première fois, j'ai demandé de faire l'intitulé de l'exposition « Le Jala de Soumeni ». Mais depuis que la nouvelle liberté s'est levée, elle est là. Elle est là. Pour ça, si on ne la détruisait pas, si on ne montait pas expressément casser son visage, c'est qu'elle serait là intacte. Mais j'ai repris le visage derrière moi. Mais c'est toujours le même.
Parce que le même nombre de morceaux de miroir, j'ai suivi les mêmes tracés pour obtenir la même expression. Visage calme, souriant, nargueur, défiant.
Je n'aurais pas pensé à ce que
tu nargueur, ouais. Oui. Parce que la nouvelle liberté, oui.
Je n'aurais pas utilisé ce mot, mais...
L'expression est un regard neutre. Ça veut dire que tu le défies, elle accepte. Tu l'approuves, elle accepte. Ah, ouais, c'est nargueur, ça.
Pas toujours.
Parce que l'œuvre en soi-même n'est qu'un pont pour donner un discours, hein. Ce n'est qu'un pont. Tu traverses là-bas, tu te peins devant, tu parles. Mais tu ne peux pas déjà parler sans qu'il y ait le pont. Le pont, c'est quand les gens s'interrogent de l'autre côté. Mais qui a fait ça? Il est où? C'est ça, le pont. Qui a posé ce truc? Comment il a fait? Mais c'est beau, hein? Est-ce qu'il peut vendre ça? Ça, c'est l'interrogation de l'autre côté. Pourquoi vous pensez que c'est beau? Qu'est-ce qui vous plaît dans ça? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Un autre me disait à Dédo qu'on n'a pas mis la peinture. Je dis, mais vous aurez aimé qu'on mette la peinture? Il dit, oui, parce que c'est trop sale. Je dis, ben ok. Est-ce que vous savez pourquoi on a mis ça là-bas? Oui, mais c'est pour orner l'endroit. Je dis, oui, mais aussi pour vous faire parler comme vous parlez. Beaucoup plus pour vous faire parler que pour orner. Parce que quand vous parlez, ça veut dire que vous vous sentez concerné. Ça, c'est l'essentiel. Ah, pas les peines. Sinon, si on peignait, vous n'aurez pas la même réaction. Vous serez passé pour partir. Non, c'est exprès. Mais quand même, monsieur, il fallait mettre un peu de peinture. Ouais, c'est les gens qui ont une idée conçue de ce qu'ils attendent à voir, que les choses soient bien comme ils veulent. Mais non, ça sera, le monde ne sera jamais comme ça, comme vous voulez. C'est pourquoi je dis toujours que les artistes qui évoluent ici ont entre autres la mission de recréer le public. Il faut recréer le public, restimuler le public à l'art, les renseigner de nouveau. C'est dans cette optique que j'ai travaillé, fait la nouvelle liberté, question de provoquer aussi. Parce que vous pouvez faire du ciment, hein. Vous pouvez faire le truc là en ciment. Vous pouvez faire comme tout le monde va aimer. Mais j'ai dit, mais non, il est temps quand même qu'on apprenne à faire autrement. Alors, je peux faire une légère torsion pour obtenir la courbure de l'œil qui peut se poser sur un espace. Et puis maintenant, à ce niveau-ci peut intervenir le fil de cuivre. Le fil de cuivre, il est où? S'il te plaît, il est là, à l'angle là. Non, pas celui-là, l'autre qui est posé là. Non, non. Non, non, non. Il est là, sur le plateau jaune. Il y a le fil, il n'y a pas de fil là. Il y a le fil. Ouais. Oui, c'est ça. Oh, oui, oui, ça. C'est lui. Quand vous dites là, je fais de là. C'est un petit mot composé de quelques 3 ou 4 lettres. Ah, c'est quoi? Appelez l'artiste. Comme vous ne comprenez rien, demandez-lui, monsieur. Dans votre travail, où est l'art et où est l'œuvre? Séparez les deux. Œuvre d'art. Où est l'art? Où est l'œuvre? Bon, maintenant, je prends le mot tel que vous le prononciez. Moi, je me l'applique. A, je dis amour. R, je dis rituel. T, je dis travail. L'amour, le rituel, au travail. Ça fait art. L'amour, le rituel, le travail. C'est l'art. C'est-à-dire que pendant que je travaille, je suis content, j'ai une certaine fierté, j'ai une certaine joie d'exercer ce travail. Oui, c'est l'amour. Je prends beaucoup du plaisir pendant que je fais. C'est ce que je fais là, c'est l'amour. Puis le rituel. Ah, le rituel.
C'est un espace qui résume un ensemble de pratiques avec un rythme répété, avec un roulement de pensée, un ruminement de pensée permanent. Ça, c'est le rituel. Et puis maintenant, le rituel te pousse à poser l'acte. Voilà là. Et il y a un gars qui a souligné le mot rituel. J'ai dit, oui, je savais que vous devrez... J'ai dit, mais le rituel, là, ce n'est pas des bougies allumées. Ce n'est pas un tissu noir, ce n'est pas de l'encens. Ce n'est pas la poudre noire, c'est rien d'autre. Mais le rituel, c'est la capacité de faire un geste répété pour maîtriser. Ça, c'est déjà un rituel. Quand vous prenez le pinceau, pour le tourner, vous ne le faites pas sans calculer que la peinture va dégouliner. Donc, la prudence du geste, le contrôle de la dose et la quantité, puis finalement la pose. Obtenir ce qu'on veut, ce qu'on a préparé dans sa pensée pour pouvoir faire ce mouvement-là. Ça, c'est un rituel. Le rituel manque. Il faut préparer le rituel. Dans le rituel, tu as le global de ce que j'appelle la cuisine de l'artiste. C'est là que réside l'espace du rituel, la cuisine de l'artiste. C'est pas moi, le fait de prendre un bambou taillé d'une certaine façon, ça c'est un rite. Parce que tu sais ce que tu vas en obtenir. Oui, c'est simple ça, comme ça là. Allô?
Le miroir du subconscient. Le miroir du subconscient est un masque de 90 cm de haut et 60 cm d'envergure. Cet amas d'objets représente une araignée géante. En pays bamiléké, aux origines de Souménier, la mygale est l'animal qui prédit le destin. Ici, ses pattes sont largement déployées et son abdomen renferme le visage d'un être humain. Cet individu a les yeux grands ouverts. Il a l'air étonné, étonné de savoir que sa vie ne tient qu'à un fil d'araignée.
J'ai fait le miroir du subconscient, bon, l'une de mes premières sculptures d'assemblage. Quoi. C'est ça même qui a commencé à éveiller beaucoup de mes soupçons sur la voie à suivre. Quoi. Pendant que je réalisais, il y a deux vieux qui sont venus. Ils sont d'abord tenus à distance. Ils m'ont regardé pendant longtemps. Pendant longtemps, ils ont regardé. Et puis, il y a un d'eux qui est venu. Il a pris son ami. Ils sont venus jusqu'à moi. Et puis il me pose la question, monsieur. Je lui dis, ben, excusez-nous, est-ce que vous êtes un sorcier? Je dis non, je suis un artiste. Il me dit que c'est la commande d'un sorcier. Je dis non. Pourquoi toutes ces questions? Il me dit que parce que ce truc-là, ça nous fait un truc qu'on ne parvient pas à expliquer. Si vous n'étiez pas là et on voyait ça qu'on a posé sur une route, c'est qu'on va seulement changer de route parce qu'on se dirait que la route-là est interdite. J'ai dit bon, merci beaucoup. Mais non, pour l'instant, c'est juste une sculpture. Il me dit, mais monsieur, nous ne comprenons rien à tout ce que tu nous dis et tout ce que tu nous fais, tout ce que tu fais. Mais nous trouvons que c'est très beau. Continue. Tu vois, déjà que faire un travail où chacun se sent concerné, c'était ça l'objectif à atteindre. La réaction ne concerne pas l'artiste, ce n'est qu'entre toi et l'objet. C'est ça l'objectif. Lorsque je fais donc cette exposition au Centre culturel français, le bruit s'amplifie, ça arrive à Douala. Et puis entre-temps, il y a un monsieur qui arrive, Tchétchou Kemeni, un journaliste du Messager, il vient, il me dit, mais dis donc, c'est toi qui as exposé les trucs qui sont au Centre culturel français. Je lui dis, mais tu appelles ça quoi? Entre-temps, un journaliste m'a précédé, il est parti intituler la une. Le souménisme est né, mais ceux qui y étaient n'ont vu que du spiritisme. Je dis, ben, si mon travail se trouve dans l'espace spirituel, sans en être parti, ça veut dire que la force de présence est l'équivalent de ce que les initiés ancestrales trouvaient dans les sculptures réalisées en atelier. Bon, parce que quand on réalise les sculptures en atelier, ça a une certaine force de présence que les initiés sans le vouloir, se sentent attirés et ils amènent l'objet d'homme maintenant vers l'initiation. Voilà là où commence la religion africaine. S'élever spirituellement, c'est la religion. S'élever par la pensée pure, le faire et le révéler sont également des espaces qu'il faut vraiment séparer pour gérer. L'art et la religion africaine sont deux espaces différents. Ça ne veut pas dire que nos ancêtres n'avaient pas de force ou bien qu'ils n'avaient pas de capacité d'avoir des relations avec des esprits. Mais non, mais confondre la science, aller amener un objet scientifique, scientifiquement explicable, dans un espace mystique, c'est difficile. C'est joindre les deux espaces, il y a du flou là-dedans. Du coup, on dort dans sa tête, on ne pense plus.
Parce que c'est mystérieux.
Oui, mais or, si l'artiste peut expliquer en détail ce qu'il fait, ça montre qu'on peut chercher des réponses à chaque chose. S'habituer à chercher le pourquoi. Parce que plus tu poses des questions, plus tu t'ouvres. Parce que la pensée, du coup, on voit le côté scientifique. La religion, on voit du coup le côté spirituel, qui est en fait un domaine très vaste. Tu as les initiés, tu as les non-initiés, tu as les envoyeurs de tonnerre, tu as tout ça, on met ça spirituel. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis dans la pensée, la création. Et je dis donc, l'art ne doit rien à la religion, mais c'est la religion qui doit à l'art. Voilà ma conclusion. C'est-à-dire que l'artiste pense et réalise avec une telle force que le travail a des émanations.
Ça irradie.
Voilà, quand il n'est pas là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quand des interrogations commencent, les initiés se sentent interpellés parce qu'ils sont partisans du mystère, ils aiment le mystère. Bon alors, ils prennent ça maintenant, s'en vont faire des incantations, on y ajoute le supplément des initiations spirites et ils mettent des esprits. Maintenant l'objet peut fonctionner, spirituellement il peut fonctionner, c'est-à-dire il peut devenir le gardien d'une tribu, il peut devenir parce qu'on l'a initié. Mais auparavant, avant l'initiation, l'objet en soi-même avait une certaine force. Cela explique d'ailleurs pourquoi les sculpteurs mouraient. Parce que les rois qui avaient l'orgueil tellement... C'est-à-dire des gens qui voulaient tout avoir, ce que d'autres n'ont pas. Quand un sculpteur faisait un travail qu'on trouve que c'était d'une qualité forte et qu'elle était rare, il fallait faire mourir le sculpteur. Que l'objet reste unique et que maintenant la religion reste à en faire tout ce que bon lui semble. Parfois même, les initiés jugeant tellement incomplet, le travail pouvait prendre un courrier, te l'affiche par ici. D'autres prennent un morceau de bois qui juge un peu mieux, te la colle par là. Mais quand tu analyses, tu vois qu'il n'y a pas la cohérence exécutive en ce qui concerne la matière parce que la sculpture a été un peu éloignée de ce qu'on a rajouté après. Bon, donc, la capacité de penser, d'amener l'être à voyager par l'objet. On ne parle pas de se déplacer, hein. Non, c'est-à-dire dans le mental. Parce que quand tu arrives à la nouvelle liberté, ah ben mon Dieu, tu oublies que tu es en face d'un tas de déchets. C'est après que finalement tu te rends compte que mais, c'est ça qui m'effraie. Il y a les machins. Mais à prime abord, tu as oublié ça au départ. Quand tu te tiens à plus de 5 mètres, tu vois la nouvelle liberté, elle est imposante. Elle te dit, viens regarder. Elle dit, non, l'Africain doit déjà cesser cette coopération avec les esprits, mais plutôt doit faire la part des choses. Je ne te demande pas de fuir la religion des ancêtres, mais je te dis qu'il faut dissocier la pensée pure du fait d'avoir des relations avec les esprits. Ça, c'est deux choses différentes. C'est différent. La base de la tradition part sur les bases de domination, tout comme le système politique. C'est ce que je faut déjà te dire dans... Tu as dans ce sens le manger et le qui doit manger et pourquoi il doit manger en premier. Il est qui? La politique pose la question, lui c'est qui? La tradition pose la question, lui c'est... Tu vois que les deux données se croisent, non? Ça se croise. Les deux fonctionnent de la même façon. Le chef n'est pas si innocent. Les notables ne sont pas innocents. La politique n'est pas innocente. Les ministres ne sont pas innocents. Le président de la République n'est pas innocent. C'est le premier Camerounais de toutes les façons. Ah ben, le chef du village, c'est également le chef du village. Qu'est-ce qui fait de lui le chef? Bon, parce que, ils ont eu l'astuce de canaliser ce qui est mauvais
ou bien d'être un groupe de mauvais pour lutter contre un autre mauvais, qu'eux, ils jugent plus mauvais qu'eux. C'est ça la politique également. Donc, voilà les intercessions entre les pratiques humaines. Quand tu comprends ça, tu gères, tu peux t'élever davantage. Tu peux donner ton avis sur une chose en sachant avec qui tu as affaire, où tu vas et qu'est-ce que tu veux obtenir, c'est tout.
Au cours d'une visite dans le méditoire, j'ai eu le privilège d'y rencontrer des aspirants au métier. Ils étaient là dans le cadre de leur stage académique. Les trois futurs masters en arts plastiques étaient plongés dans l'exercice de la peinture. Dans ce minuscule espace, l'un cherchait le moyen de dresser son chevalet sur le sol cabosseux. Un autre mettait des clous pour faire tenir sa toile. La dernière s'appliquait à étaler de la matière sur la sienne. Sur un fond bleu, j'apercevais un homme battant le tam-tam. Il battait si vite que l'on voyait apparaître le faisceau qui illustrait les traces du passage de sa main dans l'air. De temps en temps, une discussion venait interrompre les mouvements du pinceau et les toc-toc du marteau.
Réfléchissez sur ce que vous faites. D'abord, qu'est-ce que je fais? Et après, qu'est-ce que je dirai de ce que je fais? Voilà.
Le discours ne vient pas avant l'œuvre. C'est l'œuvre qui vient toujours avant le discours. Parce que l'œuvre lui-même vient traduire ton souci de communiquer à travers l'œuvre. S'il n'est pas assez fort pour ça, le discours, c'est rien. Faites des choses. Faites des expériences. Ça commence par là. Des expériences. Vous expérimentez les choses. Vous observez les choses, les réactions des couleurs. Vous observez pourquoi la couleur, pourquoi le pinceau, pourquoi la brosse, pourquoi ceci. Si à la place de la brosse c'était un couteau, ce serait quoi? Et il y a déjà la spatule. Bon, la spatule est venue pourquoi? Bon, est-ce que la spatule la dépose et ça, on va faire quoi?
Apprenez à mettre un peu du mystère dans les œuvres.
Plongez-vous dans le rituel, façonnez-vous une cuisine et puis surprenez les professeurs, voilà ce que je leur dis.
C'était le Jala de Soumenier, un documentaire radiophonique de Didier Tulopoussi. Montage, Sébastien Demeff. Mixage, Didier Tulopoussi. Le Jala de Soumenier est un documentaire produit par Ressac Post-Production. Nos remerciements s'adressent à Joseph-Francis Soumenier pour sa disponibilité, à Alexandre Galland, Émilie Rouchon, Sarah Fautré, Sébastien Vandenborg et Pauline Van Roy pour leur écoute attentive.
Sei alternativ. Die Leidenschaft. Aufgeschlossen. Kunst. Kunst. Brüssel und Kunst. Ohne Titel Ende.